Bonjour, je remercie M. Fournet de m'avoir invité à ce colloque. Et en fait, je commencerai mon intervention par un aveu, c'est-à-dire que mon intervention ne va pas vraiment correspondre au titre que j'ai annoncé, parce qu'en fait, quand j'ai voulu étudier ces modes d'emploi des mirabilia qui apparaissent dans le traité de Rapollon, je me suis rendu compte en fait que c'était une question qui avait déjà été approfondie dans les commentaires de cet ouvrage, ou que tout simplement très souvent il était impossible de pouvoir en quelque sorte comprendre le réseau de croyances qui sont à la base de des informations et des croyances qui sont présentes dans le texte. Donc, en fait, je me suis contenté de relire le texte de Rapollon à travers un double filtre, qui est le filtre en fait de la littérature astrologique et le filtre de la littérature magique, plus particulièrement relative au pouvoir des pierres magiques. Parce qu'en fait, il me semble qu'une relecture de ce type permet de comprendre ou de mieux comprendre certains aspects du traité de Rapollon. Donc, les exemples que je vais proposer sont tirés essentiellement de deux textes que je connais assez bien, qui sont donc le Péricatarchon de Maxime, un traité astrologique sur les initiatives humaines qui est attribué à Maxime d'Éphèse, précepteur de Julien l'Apostat, donc on est au IVe siècle après Jésus-Christ. Et l'autre texte que je vais citer assez souvent est le Lapidaire Orphique, qui est lui aussi, en fait, qui a été lui aussi composé dans l'entourage de Julien, vraisemblablement, parce qu'en fait, dans le prologue de ce poème, il est question de la mort précisément de Maxime d'Éphèse, qui a été exécuté après la mort de Julien. Mais ces deux textes, le Péricatarchon et le Lapidaire Orphique, ne nous transmettent pas des informations isolées. Ils témoignent de croyances et d'idées qui se placent dans le droit fil de traditions beaucoup plus anciennes. Donc, voilà, je les cite parce que je les connais mieux, mais il s'agit d'informations qu'on peut rencontrer dans d'autres textes. Donc, je vais procéder en trois grandes parties. Dans une première partie, je vais me consacrer au rapport entre Rapollon et l'astrologie, donc en essayant de voir si l'astrologie est présente dans le traité et de quelle manière elle nous permet de comprendre ou mieux comprendre certaines des informations fournies par Rapollon. Dans une deuxième partie, en fait, je vais parler de toute une série d'images, informations, centres d'intérêt qu'on rencontre dans le texte de Rapollon et qui m'ont fait penser à des détails, des images, des centres d'intérêt qu'on trouve très souvent dans les textes astrologiques et magiques. Et pour finir, comme les deux textes dont je vais vous parler, Péricatarchon et Lapidaire Orphique, ont vraisemblablement été composés dans un milieu néoplatonicien, je vais aussi vous proposer toute une série d'images, centres d'intérêt, particularités du texte de Rapollon qui peuvent peut-être s'expliquer, en fait, dont la présence dans le traité de Rapollon peut s'expliquer justement par l'adhésion de ce savant à la philosophie néoplatonicienne. Voilà. Donc, pour commencer, on peut commencer en voyant que chez Rapollon, en ce qui concerne l'astrologie, on rencontre très souvent un vocabulaire technique assez précis. Par exemple, dans le premier exemple, premier tiré, il est question donc des 28 jours que met la Lune à faire le tour des 12 signes du zodiaque. Donc, ce type d'expression, cette attention au temps que met la Lune à faire le tour des 12 signes du zodiaque, apparaît très souvent dans la littérature astrologique. Donc, on peut le voir avec l'exemple de Maxime, vers 143 à 144, « Selenes en eidoloisi theuses dodeca. Donc, c'est une expression qui est vraiment qui pourrait être tirée d'un traité astrologique. Un autre exemple qui me semble assez intéressant, c'est voilà, la variété d'espèces de scarabées Dikeros kai Tauroeides, dont il a été question tout à l'heure. Et donc, on nous dit que, en fait, Horapollon établit un lien entre l'apparence de ce scarabée, qui a donc des cornes et qui ressemble à un taureau, pour nous dire, en fait, que le taureau céleste est le hypsoma de la Lune. Et là aussi, il emploie le mot hypsoma, exaltation d'une planète, qui est tout à fait précis pour désigner ce type de, comment dire, de réalité astrologique. Et aussi l'adjectif composé qu'il emploie pour désigner le scarabée, Tauro, et en fait les deux adjectifs qui portent respectivement sur les cornes et sur l'aspect de taureau, font penser à un passage de Maxime où il est question justement de la Lune qui est désignée Keraes Tauropidos Argetin Aiglen, donc l'éclat scintillant de la déesse cornue à face à visage de taureau. Pour continuer, même dans un verbe assez banal comme le participe syngenomenos, qui désigne donc la conjonction du soleil avec la constellation du lion, o helios leonti syngenomenos, on peut voir un lien avec la langue astrologique, parce que dans la langue astrologique, les composés de eimi, notamment syneimi, désignent précisément la conjonction de deux planètes ou d'un planète d'un planète avec un signe. Donc on peut comparer avec le vers 272 de Maxime, Zeni Sunusa kai aute cuprogeneie, où il est question donc de la conjonction de la Lune avec Jupiter ou avec Vénus. Alors donc pour le dernier exemple que je fais là, il est question de Isis, donc dans un des premiers paragraphes du traité, donc qui est assimilé à une étoile, os kai dokei basileuin ton loipon asteron, donc qui règne en quelque sorte sur les autres étoiles. Alors, il est possible que Isis, il y ait ici une confusion entre Isis et la Lune qui est mentionnée à la fin du chapitre. Dans la langue astrologique, quoi qu'il en soit, dans la langue astrologique, comme le montre cet exemple de Maxime, Basileia Selene, la Lune est tout le temps donc appelée reine ou souveraine. Mais c'est peut-être plus intéressant de passer aux associations d'idées qui sont souvent à la base des pronostics astrologiques et qui semblent être à l'œuvre aussi parfois dans le traité d'Horapollon. Par exemple, dans le traité d'Horapollon, le taureau est toujours proposé comme un symbole, en quelque sorte, de modération. Mais en même temps, on souligne à plusieurs reprises son extraordinaire vigueur sexuelle. Hyperballuse eutonia. Ça m'a fait penser à une caractéristique du signe du taureau en astrologie. En fait, le signe du taureau est responsable de toutes sortes de perversions sexuelles. On le voit par exemple dans ce distique de Maxime, toutes les bonnes mœurs des femmes, en effet, elles les dispersent. La fille de Théia au chevet d'or quand elle est montée sur le taureau. Et après, Maxime va nous décrire justement une femme qui va tromper son mari, qui ne va pas se contenter d'un seul homme et qui donc va le tromper tout le temps. Donc peut-être cette vigueur sexuelle du taureau peut aussi s'expliquer par les croyances liées à l'astrologie. Pour le lion, donc, on souligne très souvent, on va dire dans le traité, son lien avec le feu et avec le soleil. Et justement, le soleil est le lion représente l'exaltation du lion en astrologie. Alors, déjà, si on regarde ce passage 1.17, on voit, en fait, je voudrais souligner donc l'expression choras purodeis, parce qu'en fait, ce même adjectif, on le retrouve chez l'astrologue Vetus Valens pour désigner le lion, qui est un signe purodes, et aussi l'adjectif actinoeideis, qui est banal, bien évidemment, mais dans les textes astrologiques, on réserve toujours une attention particulière à l'éclat des planètes, des étoiles. On s'arrête tout le temps sur leurs rayons. Donc, voilà un exemple banal qu'on peut tirer de Maxime, Eliu Actines. Là aussi, il y a cette attention au rayon du soleil qui donc ont un lien avec l'apparence du lion. Et dans le traité de Rapollon, le lion représente donc une colère excessive. Tumon ametron osteka yek tutu puretein ton tumumenon. Et on voit ici donc ce qui m'intéresse, c'est le lien entre le lion, la colère et le feu. Parce que le lion, c'est donc un signe de feu qui est lié au soleil et qui a toujours un lien avec la colère dans les textes astrologiques. Pour Dorothée de Sidon, il rend les voleurs irascibles, et toujours chez Maxime, le pauvre mari, cette fois-là, il ne se fera pas tromper par sa femme, mais il se fera frapper par elle. Sa femme sera hyperfialante, tusorgetante, outrecuidante et irascible. Et le poète va nous décrire donc la femme en train de frapper son mari, déchirer ses vêtements, etc. Alors, après avoir présenté ces associations d'idées qui me semblent assez évidentes, je vais vous présenter une hypothèse du même type. En effet, dans le livre 2, au chapitre 90, la part d'Alice, je n'ai pas compris s'il s'agit d'un léopard, d'une panthère, en tout cas, cet animal représente donc un homme qui cache en soi-même sa méchanceté et qui se cache en fait de manière à ne pas se faire connaître par ses proches. Alors, pourquoi ce passage m'intéresse ? Parce qu'en fait, dans les textes astrologiques, la planète Mars exerce son patronage sur les leopardus, donc un animal dont le nom est très proche de celui dont il est question chez Rapollon. Et il faut savoir que la planète Mars représente le domicile du signe du scorpion. Donc en fait, la planète Mars ou le signe du scorpion vont avoir les mêmes pouvoirs, les mêmes influences. Or, le scorpion, comme le dit Dorothée de Sidon, donc un autre astrologue, est l'investigateur de toutes les choses cachées. « O scorpios panton ton crufion estin ereunetes ». Et chez Maxime, en effet, dans la section sur les voyages, le poète nous dit qu'il est nécessaire d'emprunter un chemin secret, Epicryphon Oimon. Donc cette association de la part d'Alice avec l'hypocrisie, avec le fait de cacher quelque chose, pourrait aussi s'expliquer par le patronage astrologique qu'exerce donc la planète sur ce type d'animal. Mais quoi qu'il en soit, dans le poème de dans le traité de Rapollon, on trouve aussi d'autres associations d'idées, qui sont les associations d'idées basées sur la sympathie universelle. Donc, le lien que les anciens établissaient entre les planètes, qui exerçaient en fait un pouvoir sur les animaux, les minéraux et les végétaux qui se trouvent sur Terre. Donc, le terme de sympathie, il est explicitement évoqué par Rapollon quand il est question du cynocéphale. Donc, c'est le livre 1, chapitre 14. Et un rapport qui est basé sur la sympathie, on le trouve au chapitre 21 du livre 2, où on nous dit que le cerf symbolise ce qui dure longtemps, polychronia semainei, puisque ses cornes repoussent chaque année, kat eniauton blastanei ta kerata. Donc, ce type de croyance peut être rapproché d'un passage du lapidaire orphique, donc, où il est question d'une pierre qui s'appelle justement corne de cerf, Elaphoiocheres, et qui, justement, en vertu de sa ressemblance avec le corne d'un cerf, garantit une concorde éternelle aux mariés. Donc, quant à son bras robuste, un homme mène au lit des noces sa toute jeune épouse, engage des plaisirs de l'amour, qu'il emporte avec lui cette pierre. Dans la concorde indestructible, elle les gardera tous deux jusqu'à l'extrême vieillesse, chaque jour de leur vie. Donc, on voit que ici, on insiste sur la durée de cet amour, de la même manière où chez Aurapollon, le cerf désigne donc des choses qui vont durer longtemps. Et la rencontre chez Aurapollon entre l'astrologie et la sympathie universelle se fait, au livre 1, chapitre 38, là où il est question de la iatromathématique, c'est-à-dire la astrologie appliquée à la médecine pour connaître l'issue d'une maladie. Il est question de ce livre sacré appelé Ambrès, à partir duquel les prêtres égyptiens étaient capables de comprendre si le malade survivrait ou non à sa maladie, en observant en fait le jour précis où avait commencé l'alitement. Donc là aussi, ce passage nous fait comprendre de manière explicite que Aurapollon connaît ce type de croyance, et il est question de iatromathématique aussi ailleurs dans le traité, mais de manière plus discrète. C'est dans le chapitre consacré aux faucons, donc livre 1, chapitre 6, où on voit clairement que les médecins se servent donc de l'herbe du faucon, Te hierachia botane, pour soigner les yeux. Parce qu'en fait, le faucon est capable de regarder le soleil, et donc il y a un lien entre le faucon et le soleil, et la plante du faucon peut soigner les yeux. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est justement la présence du mot iatroi qui nous met dans un contexte médical, mais c'est une expression discrète comme curion onta horaceus, donc le soleil est le seigneur de la vue, parce qu'en fait, ce terme de curios est le terme qui, en astrologie, désigne le patronage exercé par une planète, par un astre, sur une partie du corps humain. Et si vous regardez la citation de Ptolémée, au livre 3, 15, 5, on trouve exactement la même expression, « curios estin odelios horaceos ». Donc là, on voit que combinaison de médecine et astrologie est suggérée de manière discrète. Donc ça, c'était pour évaluer un peu la présence de l'astrologie chez Aurapollon. Là, je vais vous proposer une série de centres d'intérêt, on va dire, d'images, de centres d'intérêt qui sont présents chez Aurapollon et qui m'ont fait aussi penser à la littérature astrologique. Donc, le premier exemple que je veux proposer est l'exemple du voyage. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, chez Aurapollon, il est question d'un homme qui s'éloigne de sa patrie, anthropon tes patridos apodomesanta, et d'un homme qui rentre chez lui après un long séjour à l'étranger, ton chronios de apoxenes epidemunta. Alors, les voyages, le retour après un voyage, la durée de l'absence, c'est des caractéristiques qui sont très répandues dans les textes astrologiques. Il est tout le temps question de voyage, durée d'un voyage, danger qu'on pourra courir pendant le voyage, etc. Maxime, par exemple, consacre une section au voyage, donc les 58 premiers vers de son poème. Et le deuxième exemple de chez Aurapollon, l'homme qui rentre chez lui après un long séjour à l'étranger, peut être mis en relation, me semble-t-il, avec un passage de Maxime qu'on peut lire ensemble, même si la langue, bien sûr, chez Maxime, va être beaucoup plus raffinée, soutenue et compliquée. Si à ce moment-là, tu veux aller en terre étrangère, Gaïa n'est salde d'appel, auparavant, tu accompliras un long chemin en t'attardant et tu seras longtemps absent. Mais c'est avec joie qu'au bout d'un très long cycle de plusieurs années, donc c'est exactement le chronios de chez d'Aurapollon, tu reverras tes compagnons, ta propriété et ta belle maison. Donc c'est une préoccupation qu'on rencontre aussi bien chez Aurapollon que chez les textes astrologiques. Je passe sur les dangers du voyage et je passe à un deuxième exemple aussi qui m'a frappé. Il s'agit du sens de l'ouïe. Parce qu'en fait, Aurapollon nous dit que la chèvre représente un homme avec un sens de l'ouïe particulièrement développé. Tina de catato malon acuanta. Là aussi, c'est une phrase, un détail qui m'a fait penser au lapidaire, non seulement le lapidaire orphique, mais aussi d'autres textes de ce type, où il y a justement des minéraux qui garantissent à ceux qui les emploient d'avoir une ouïe particulièrement sensible. C'est le cas de l'ophite dans le lapidaire orphique. On vit même un homme à l'ouïe paresseuse qu'elle délivra. C'est à elle qu'il dut de recouvrer soudain, je m'excuse pour la coquille, des oreilles sensibles au bruit le plus ténu. Leptes eriecon emen autes. Donc c'était aussi quelque chose qui m'a frappé, qui me semble avoir peut-être un lien possible avec cette littérature magique.
Pardon. Pour le... Pouvez-vous terminer en 5 minutes à partir de maintenant à peu près?
D'accord. Alors je vais terminer sur... je vais sauter ma troisième partie. Dernier exemple que je vais proposer, c'est donc un exemple que je vous propose avec un point d'interrogation, parce que voilà, je ne suis pas sûr de mon interprétation. C'est le chapitre 51 du livre 2, où il est question d'un homme qui se réfugie auprès de son patron, mais qui ne reçoit aucun secours. Anthropon prosfeugonta to idio patroni. Kai me boetumenon. Donc là, c'est le mot patron qui m'a interrogé, qui m'a interpellé. Parce qu'en fait, le patron m'a fait penser à un esclave affranchi, ou à l'époque d'Aurapollon, on peut aussi penser que le patron représente un saint chrétien. L'Ampe donne des exemples. Je n'ai pas trouvé d'attestation de patron dans le sens, en fait, qui désignerait une divinité païenne. En tout cas, si on admet que le patron peut représenter un personnage divin, on va dire, on pourrait rapprocher le passage d'Aurapollon d'un passage de Maxime et de plusieurs textes astrologiques consacrés à la fuite des esclaves. Tu trouveras l'esclave dans un bois sacré ou dans un sanctuaire en train de se préparer un gîte clandestin. Tu amèneras de chez les dieux ce suppliant, les cheveux hérissés, tout frissonnant et claquant des dents. En fait, si on admet que le terme patronne a cette valeur religieuse, on verrait que dans les deux contextes, l'intervention du patron se révèle inefficace. Et donc, ça pourrait aider à mieux comprendre le passage de Aurapollon qui me semblait un peu obscur. Donc, je saute ma... troisième partie où j'aurais voulu parler de lien possible entre le d'image que Aurapollon nous propose et qui pourrait avoir un lien avec la culture néoplatonicienne, et j'espère que donc ma lecture ou relecture du texte d'Aurapollon à travers le filtre de l'astrologie et d'un certain type de littérature magique vous a semblé convaincante et je suis ouvert à vos remarques et vos conseils pour améliorer mes hypothèses de travail. Merci.